Bonjour, savez-vous qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des cités et des rues ? Ici, au nord de Paris, on fait pousser des framboises, des tomates, de la ciboulette, des tonnes et des tonnes de fruits et légumes.
Nous, on ne le savait pas. On a découvert que ces aliments poussent dans des fermes hors champ, des fermes urbaines.
Nous sommes les élèves de la 4e une du collège Myriam Makeba à Aubervilliers et pendant plusieurs mois, on a participé à une résidence Agora.
On s'est mis dans la peau des journalistes pour faire des reportages dans deux fermes urbaines de Saint-Denis. Elles s'appellent le 6B et Zone Sensible.
Ces fermes urbaines sont très récentes. Elles sont situées sur ce que l'on appelait la plaine des Vertus.
C'était une zone au nord de Paris dédiée au maraîchage, des hectares et des hectares de cultures qui servaient à nourrir tout Paris. Ensuite, ces champs ont été remplacés par des usines qui ont beaucoup pollué le sol de la Seine-Saint-Denis. C'est dommage quand même.
Quand les champs et les jardins ont disparu, les habitants ont perdu la nourriture locale et pas chère. Ils ont aussi perdu leur savoir-faire et oublié comment jardiner.
Heureusement, grâce aux fermes urbaines, la nature revient en ville et la nourriture redevient locale. Allez, venez avec nous découvrir mille choses. Le maraîchage, l'apiculture, les animaux et toutes les personnes investies pour un avenir durable.
Impossible de deviner qu'il y a une ferme urbaine au 6B, car les premières choses qu'on voit, c'est des bâtiments, des routes, la Seine, le canal de Saint-Denis, le RER, des trains et des avions au-dessus de nos têtes.
Le 6B, c'est un ancien immeuble de bureaux. Il a été abandonné et maintenant, 200 artistes travaillent à l'intérieur.
Derrière l'immeuble, il y a 2000 m² de jardin, avec des fleurs, des arbres et un potager.
Quand on arrive, on rencontre Hugo et Corentin de l'association Engrainage. Pour s'occuper du potager, ils organisent des chantiers participatifs. Alors, on les a aidés à remplir des brouettes avec des copeaux de bois.
C'est tout ? Oh, c'est carré !
Là, on est en train de remplir la brouette, parce qu'après, on va étaler là-bas. J'ai du broyat. C'est pour les plantes. C'est pour que ça pousse plus.
Pourquoi vous avez voulu remettre de la nature en ville ?
Parce qu'il en manque beaucoup. Je pense que vous êtes au courant, on va vivre une période de réchauffement climatique où la nature devient de plus en plus importante. Pour qu'il y ait moins de réchauffement, il faut planter des arbres, parce que les arbres, ils stockent le carbone. Et puis même pour ta vie de tous les jours, en fait, c'est plus agréable si à côté de toi, il y a des plantes, il y a de la nature plutôt que des immeubles. On essaye de rendre l'habitat des gens plus agréable pour qu'ils soient aussi plus heureux.
Quelle est l'histoire de ce lieu ?
C'était un ancien parking en fait ici, qui était abandonné depuis 10 ans. Et pendant un an, on a nettoyé tout ce jardin, on a enlevé tous les déchets. Et puis après, petit à petit, on a commencé à créer un jardin dessus et qui s'agrandit aujourd'hui de jour en jour. On utilise beaucoup le réemploi. Il y a beaucoup de plantes qu'on récupère, il y a beaucoup de bois qu'on récupère. Et puis après, on a mis beaucoup de broyades. On en a mis partout sur le terrain. Une couche de au moins 50 cm. Et ça recrée un sol, ça recrée de la terre. Ça fait revenir des insectes. Et un lieu qui était totalement minéral et à l'abandon, une déchetterie devient un endroit vert, un jardin qui est, où c'est beaucoup plus agréable d'y être.
C'est trop lourd.
Allez. C'est bon.
Ah, je verse.
Vas-y, verse. Maintenant, tu peux la re-remplir.
À quoi sert le broyat ?
Alors, le broyat, il sert à plusieurs choses. Déjà, en se décomposant, il vient enrichir la terre. Donc, toutes les bestioles qui sont dans la terre, les vers de terre, toutes les bactéries, les champignons, tout ça, tous ces organismes, ils vont décomposer le broyat. Il vient apporter de l'humidité aussi. C'est-à-dire qu'en été, quand il fait très chaud, le broyat, il va empêcher l'évaporation de l'eau qui est contenue dans la terre. Et en hiver, pareil, ça va empêcher le gel. Dernière chose, c'est que ça aussi empêche le développement des mauvaises herbes.
Vous avez ramené une troisième brouette ?
Quel est le lien entre la ferme urbaine et les habitants ?
Le lien, il est très important. Nous, on a créé ce jardin principalement pour les gens qui vivent autour. Notre but, c'est créer du lien social. Donc, il y a des fermes urbaines. Leur but premier, ça va être produire des légumes pour les vendre. Nous, notre but premier, c'est que les gens, ils viennent jardiner. Plus particulièrement les gens de Saint-Denis, les gens du quartier juste à côté.
Qu'est-ce qui est important d'apprendre aux gens qui viennent ici ?
Initier les gens à l'agriculture et les sensibiliser à l'écologie, à l'alimentation saine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment poussent les fruits et les légumes, qui pensent qu'ils arrivent comme ça dans les supermarchés. C'est important de leur apprendre aussi que tous les fruits et tous les légumes ne poussent pas à la même période. Et si tu manges des tomates en hiver, ça veut dire qu'elles sont venues de l'autre bout du monde. Et du coup, ça fait de la pollution. C'est pas très bon pour le réchauffement climatique. Donc si tu veux respecter la nature et les saisons, c'est important de manger des légumes de saison. En hiver, tu vas manger des pommes de terre, des poireaux, des épinards, des légumes d'hiver, quoi.
Est-ce que vous avez mis des règles en place pour jardiner ici ?
Bien sûr, on fait de l'agriculture biologique, donc on n'utilise jamais de pesticides. On utilise du compost, du broyat, tout ce qui est naturel.
J'enlève les mauvaises plantes qui empêchent les autres de pousser.
Donc l'idée, c'est d'enlever les racines. Donc tu fais un trou à côté et t'enlèves bien toutes les racines. Faut pas juste arracher les feuilles comme ça.
Ça, faut laisser. Parce qu'ils ont dit que c'est les plantes qui poussent, c'est des plantes aromatiques. Regarde, il y a plein de vers de terre dedans. Quand on en trouve, on les remet sous la terre, là où on a creusé. Attends, je vais t'aider.
Il y en a de plus en plus depuis 4 ans. On a vu la population de vers de terre qui a vraiment augmenté.
Oh, il y a un vers de terre. Oh là, wow, il est gros.
Oh là là, il y en a un beau là, vous l'avez vu?
Oui. Why?
Qu'est-ce qu'ils font les vers de terre?
C'est grâce à les vers de terre qu'on peut manger. Parce que eux, c'est grâce à eux, on a des légumes. Parce que sans les vers de terre, la terre, elle est pas bonne.
Ils mangent les plantes mortes, du bois, le broyat là que vous avez vu, tout ça c'est aussi de la nourriture pour vers de terre. Ils vont manger ça et leur caca du coup, ce qu'on appelle le compost. C'est une matière qui est brune, qui ressemble à de la terre, qui sont des nutriments en fait pour les futures plantes. Ils font autre chose aussi, c'est qu'ils oxygènent la terre. Ils se baladent dans le sol, du coup ils font des galeries. Ça fait des galeries où l'air peut circuler et du coup il y a de l'air dans la terre. Les racines des plantes aussi, elles peuvent se servir de ces galeries pour se développer. Elles vont prendre la place de la galerie. Donc ils ont vraiment plein de fonctions super intéressantes pour les agriculteurs.
Quand tu jardines, tu prends un temps différent du temps que tu prends dans le métro, par exemple, ou en travaillant. Aujourd'hui, on est de plus en plus pressé. Tu vois, tout doit être super rapide. Là, la nature, elle met du temps à pousser. Quand tu jardines, tu apprends à te mettre au temps de la nature. Si tu le fais régulièrement, tu vas voir que ça te fait du bien.
Alors, on va se mettre sur le semis. Tout le monde va se prendre quelques graines dans ses mains. Après, on fait comme du sel ou du poivre. Et on vient en répartir un petit peu partout comme ça.
Un semis, c'est le fait de mettre une graine en terre. Et du coup, de développer un plant à partir de cette graine. On a commencé là déjà à faire des semis la semaine dernière. Et la saison des semis et du repiquage, ça va durer de mars à juin.
À quoi sert la serre ?
Alors la serre, elle nous permet de faire nos semis le plus tôt possible dans l'année, parce que dans la serre, donc le principe d'une serre, c'est qu'il fasse toujours un petit peu plus chaud qu'à l'extérieur.
Que faites-vous pousser ?
Alors, on a les plantes donc potagères qui vont nous donner des légumes. On a des plantes aromatiques sous la forme d'arbustes, ou des fois c'est des petites bottes comme le persil ou la ciboulette. On a des plantes ornementales pour un aspect esthétique, on va parler de fleurs ou de petits arbustes. On a des arbres fruitiers aussi.
Est-ce que les habitants du quartier profitent du potager ?
Oui, il y a effectivement beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Alors nous, on a un créneau de bénévolat qui est le vendredi après-midi, donc c'est plutôt sur ce créneau-là qu'on les voit beaucoup. Mais il y a aussi des gens qui viennent régulièrement arroser la serre quand nous, on n'est pas là. Enfin, il y a une bonne dynamique autour des bénévoles sur le jardin. On va augmenter les surfaces, donc il y aura de plus en plus de travail. On espère qu'il y aura de plus en plus de bénévoles.
À bientôt, Georges.
Ensuite, on rencontre Cécilia. Elle a l'âge de nos grands-mères.
Donc là, on est gâtés cet après-midi, au moins on a du soleil.
Cécilia est la bénévole la plus engagée. Elle habite dans le quartier et elle vient tous les jours.
Je viens faire du bénévolat au niveau du jardin. Et j'arrose le soir. Le matin, si j'ai le temps, je viens désherber.
Comment vous avez découvert cette association ?
C'est une voisine qui m'a parlé du 6B. Et je suis venue. Ça m'a beaucoup plu. Parce que ça change. C'est plein de fleurs ici et c'est très beau. Au lieu de rester là sur un canapé à regarder la télé, à écouter je ne sais pas quoi, je préfère venir m'investir ici. Puis ça fait du bien.
Quand et comment avez-vous appris à jardiner ?
Moi, je viens d'un pays chaud.
C'est quel pays ?
Le Sénégal. La région sud du Sénégal, la Casamance. J'ai vécu à la campagne. J'avais toujours été au champ. J'ai pu travailler la terre sans problème.
Y a-t-il des différences entre la façon de cultiver ici et au Sénégal?
Il n'y a aucune différence.
C'est exactement la même chose.
C'est exactement la même chose.
Quelles sont les plantes qu'on peut faire pousser ici?
C'est la salade, les fèves, la patate, les pommes de terre, du topinambour qu'on a là-bas. On fait pousser les haricots, la tomate, les courgettes et les aubergines.
Bah en fait, tous les légumes qui sont au supermarché, vous les faites pousser ici?
Oui, à peu près. À peu près.
Faites-vous pousser des légumes africains ici au 6B?
Oui.
Comme quoi?
L'oseille de Guinée, l'aubergine africaine, le gyakato et le gombo. Parmi les jeunes, les trois, il y en a qui aiment beaucoup le gombo. Ils ne connaissaient pas, mais Hugo, par exemple, il aime beaucoup le gombo. Et l'aubergine africaine, ils ont dit que c'est amer, ils ne peuvent pas manger ça. Le piment, il n'y a que Ilan qui aime le piment. Les autres, ils ont peur du piment.
Vous ne faites pas pousser du manioc?
Du manioc, non. On n'a pas l'espace pour faire pousser le manioc. Et le manioc, je ne pense pas qu'on puisse le faire pousser ici, parce que l'hiver, je ne pense pas que ça puisse tenir.
Qu'est-ce que vous avez appris depuis le jardinage ici?
Ce que j'ai appris, c'est partager. Partager ce qu'on a, ce qu'on produit. Par exemple, quand on a des légumes, et je distribue au niveau du voisinage, là où j'habite. Même celui qui s'occupe de la sécurité, on donne à tout le monde.
Quelles sont les qualités pour être bon jardinier?
Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer la terre. Il faut aimer les plantes, les respecter. Respecter la terre aussi. Parce qu'elle nous nourrit. Ces qualités, si vous les avez, vous pouvez aller de l'avant.
Est-ce que vous pouviez m'apprendre quelques gestes pour jardiner?
Et bien sûr que je peux vous apprendre. Par exemple, le désherbage, le binage, il faut biner la terre. Le compost aussi, parce que ça compte beaucoup, puisqu'on n'utilise pas d'engrais ni de pesticides. Donc le compost, il faut d'abord commencer par là. Enrichir la terre et puis planter, semer d'abord, planter et l'arrosage.
Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à travailler ici?
Moi, je pense qu'il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages parce que quand tu travailles la terre, d'abord la terre, elle est noble. Et quand on produit ce qu'on mange, moi, je pense que c'est mieux que d'aller acheter. Je suis fière de produire ce que je mange.
Préférez vos légumes que vous produisez ici que ceux du supermarché?
Bien sûr que je préfère ce que moi je produis, ce que nous produisons ici, que ceux du supermarché. Parce que je ne sais pas comment c'est produit, d'où ça vient, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a ici, c'est naturel. On ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides. Tout est naturel donc.
Est-ce que les fruits et légumes que vous cultivez ici sont bons?
C'est très bon. Ils sont délicieux. Plus de goût que les légumes du supermarché.
Je ne sais pas, il faudrait que je goûte déjà.
Vous allez revenir quand ça va donner et vous allez goûter. Il n'y a pas de comparaison en tout cas avec les légumes qu'on vend au marché. Si tout le monde pouvait avoir ça, ça serait bien pour, non seulement pour la planète et pour la santé aussi. Vous, avec le temps... Quand vous grandirez, vous pouvez aussi faire la même chose que d'aller tout le temps acheter des choses qui ne sont peut-être pas bien pour la santé et qui viennent de très loin. Donc essayez de réfléchir et vous grandissez avec ces idées. Et si vous avez de l'espace, faites la même chose. C'est le conseil que je vous donne.
On a suivi les conseils de Cécilia, c'était super. Et on a continué à apprendre à jardiner avec Hugo et Corentin. Ils font pousser 300 kg de fruits et légumes chaque année.
Il y en a qui aiment la menthe.
Oui.
Tout le monde?
Oui.
Bah déjà, je vais vous apprendre à faire des boutures. Et puis comme ça, vous pouvez repartir avec un petit pot à la maison.
Oui.
Allez, c'est parti. Donc comment on va faire? En fait, donc, on a récupéré, il y a un pied de menthe. Et là, ce qu'on veut faire, du coup, c'est que notre petit brin ici... il se développe et il fasse des racines, ce qui permettra d'avoir en fait un clone de la plante qui est là-bas. Ok ? C'est comme si on me coupait un bras, on le remettait en terre et il y avait un autre Corentin qui poussait. C'est vraiment ça le principe. Donc, nous, on ne veut pas qu'elle envoie la sève dans les feuilles, on veut qu'elle envoie la sève vers le bas pour qu'elle développe des racines. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever toute la tête. Comme ça. Et on va laisser 2-3 feuilles. Ça lui suffit largement pour quand même faire de la photosynthèse et du coup avoir de l'énergie. Qu'est-ce qui va nous manquer à votre avis là ?
De l'eau.
Voilà, exactement. Il nous faut de l'eau pour fixer la terre aux racines.
Comment arrosez-vous vos plantations ?
Pour l'instant, on n'a pas installé de système d'irrigation automatique. Vous voyez juste derrière, on a les cuves qui se remplissent grâce à l'eau de la pluie.
Toute l'eau de pluie là, qui tombe sur le bâtiment, elle arrive, tu vois, dans la gouttière, dans cette tonne, puis dans cette tonne. Mais ça s'appelle une tonne parce qu'il y a une tonne d'eau quand c'est rempli.
Mais et là-bas, tu peux pas. C'est marron comme ça,
parce qu'il y avait un peu des détritus dedans, mais c'est de la terre. Mmh. Tu peux pas la boire, effectivement, mais tu peux l'utiliser pour les plantes.
Oh voilà, c'est bien lourd. Non, c'est pas lourd en fait.
J'arrose la terre. Mais au-dessus de la terre, on a mis de la paille, du coup, j'arrose la paille.
Il faut mettre l'eau partout pour pouvoir que ça touche bien les graines.
Et pour l'instant, on fait tout à l'arrosage manuel, donc des arrosoirs et puis sinon un tuyau d'arrosage quand on en a vraiment besoin. Bon là, depuis l'automne, clairement, on arrête d'arroser, la pluie fait le travail.
Que faites-vous de ce que vous produisez ?
Toute la production qu'on a réalisée les années précédentes, ça a été distribué gratuitement aux bénévoles qui viennent nous aider sur le jardin et un petit peu les résidents du 6B. Donc les résidents du 6B sont des artistes qui sont là quotidiennement. On espère que cette année, en fait, on va augmenter la surface de production, augmenter le volume, j'espère. Et ça, ce sera vendu au restaurant du 6B qui est ouvert du lundi au vendredi.
Ce restaurant s'appelle Ciboulette. Il est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 6B. Quand on entre, le restaurant est vide parce que c'est la fin du service.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ? Bah bien, j'ai fini ma journée. Ça s'est bien passé, je suis contente.
Nous rencontrons Elsa, la pâtissière.
Pourquoi votre restaurant s'appelle Ciboulette ?
Alors on a cherché longtemps. On voulait quelque chose de végétal et on voulait que ça rappelle un peu le nom du lieu. 6B, Ciboulette, c'est assez proche. En fait, on aimait bien aussi vraiment le son, ça claquait. Et puis la ciboulette, c'est une aromatique qu'on aimait bien et ça nous parlait.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre carte ?
Alors, en fait, tous les jours, on fait une entrée, un voire deux plats. On fait très peu de viande. On fait de la viande une fois par semaine à peu près. Et deux desserts. Voilà. La carte, elle est réduite parce qu'en fait, on est deux. Donc on est vraiment deux pour tout faire. L'idée, c'est vraiment que tout soit fait maison, au maximum, avec des produits frais, de saison. Donc on n'achète pas de choses toutes prêtes, on cuisine vraiment tout nous-mêmes et ça prend du temps.
Pourquoi vous êtes deux ?
En fait, on est salariés, ça coûte pas mal d'argent. On est employés par le 6B et en fait, on fait des tarifs qui sont bas pour les résidents. C'est-à-dire qu'ils payent 5,50€ le plat, un menu entrée plat dessert, c'est 10€. C'est vraiment très peu cher. Si tu vas dans n'importe quel restaurant, un plat, c'est au moins 11 ou 12 euros. Donc comme les tarifs sont très bas, le restaurant ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc en fait, on n'a pas le choix économiquement, on peut être que deux.
Les deux Elsa s'occupent de tout. Elles passent les commandes, elles font la vaisselle, elles servent la cinquantaine de clients, elles font le ménage. Et bien sûr, elles cuisinent.
J'ai fait un crumble poire banane et cacao. J'ai fait des muffins au chocolat.
Dommage, il n'y en a plus.
Alors moi je suis pâtissière, je fais surtout les desserts, c'est ma collègue qui s'appelle aussi Elsa qui fait les plats. Et les entrées, on les fait, alors des fois c'est elle entièrement, des fois c'est moi, et puis des fois c'est un peu elle, un peu moi. Par exemple là à midi on avait un houmous avec des pois cassés, et c'est elle qui a fait le houmous et moi j'ai fait les crackers avec des graines pour aller avec.
Utilisez-vous les légumes du 6B ?
Oui, alors pour l'instant, la production, elle est assez restreinte. On a eu des topinambours il y a quelques mois. Ils en avaient beaucoup, donc on a fait de la soupe avec. On a aussi fait une salade. Voilà, et c'est vrai que nous, ben, plus il y a de légumes produits sur place, mieux c'est pour nous. Après, on fait quand même une cinquantaine de couverts par jour. Donc il faudrait vraiment un grand jardin avec une grosse production pour qu'on puisse pouvoir faire 50 couverts. Pour donner un ordre d'idée, on est sur à peu près 15 kilos de légumes pour faire un plat pour une cinquantaine de personnes. Donc 15 kilos de légumes, c'est beaucoup. On utilise surtout les aromatiques pour l'instant. Donc on utilise le basilic en été, la sauge, il y en a toute l'année, on en utilise pas mal. Il y a du thym, il y a de la sarriette, il y a de l'origan, ça c'est plutôt l'été aussi. Il y a de la ciboulette, il y a de l'oseille. C'est vraiment chouette d'avoir ça sur place.
Mais ça sert à quoi ces plantes?
Ça donne du goût au plat, ça peut être mis dans une sauce. Le basilic, ça peut aller dans une sauce tomate. Des fois, c'est juste mis par-dessus. La ciboulette, ça va très bien avec certains fromages. La menthe, je la fais infuser dans de la crème. Et je fais de la crème anglaise avec, du coup, qui a le goût de menthe. Ça peut être sur un glaçage. Et j'utilise aussi, parce qu'il y a des cassissiers et il y a des figuiers. Et j'utilise les feuilles que je fais infuser. Ça peut faire une chantilly avec un goût particulier. Ça permet d'utiliser ce qui est ici et puis de faire des choses plutôt originales. Mais oui, nous, plus il y a de choses qu'on peut utiliser, mieux c'est pour nous.
Qui vient manger dans votre restaurant ?
99% des gens qui viennent sont des résidents du 6B, donc des artistes qui travaillent ici la semaine.
Est-ce que moi j'ai le droit de venir manger ?
Bien sûr, avec plaisir même. C'est ouvert à tout le monde. Il y a de temps en temps des gens qui habitent juste à côté parce qu'il y a tout un quartier de logement qui est juste derrière et c'est pas rare qu'il y ait des gens qui viennent manger. Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Pourquoi ce restaurant il est végétarien ?
Alors c'est pour des raisons à la fois économiques et écologiques. Économique parce que ça coûte quand même moins cher de cuisiner des légumes plutôt que de la viande. C'est vrai que la viande c'est cher. Après les raisons elles sont aussi écologiques. D'une manière générale dans le monde il y a trop d'animaux qui sont élevés pour être abattus pour la consommation des humains. Il y a des grandes exploitations agricoles qui polluent beaucoup. Il y a des champs avec, par exemple, du soja qui est cultivé, mais uniquement pour nourrir des animaux qu'on va ensuite manger. Enfin voilà, on mange trop de viande et c'est pas bon pour la planète. Ça crée plein de désordres.
Ça vous embête pas trop de faire que des légumes ?
Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en fait, quand tu cuisines de la viande, ça donne tout de suite un goût. Mais en même temps, les légumes, y en a plein. Puis il y a des saisons qui changent, donc c'est super varié. Et puis après, il y a plein de manières de les accommoder, parce que tu as des épices, tu as des herbes, justement, qui peuvent vraiment changer le goût d'un légume. Donc voilà, après, il faut se creuser un peu la tête, mais il y a vraiment plein de façons de cuisiner les légumes, en fait. Puis ça peut être rôti, ça peut être sauté à la poêle, ça peut être cuit à la vapeur, en purée, ça peut être mijoté dans des sauces, ça peut être croquant, ça peut être fondant. Enfin, il y a des textures, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses à faire.
Quelles sont les sortes de plats que vous faites ?
Des gratins, des currys, des dalles.
C'est quoi des dalles ?
En fait, c'est un plat indien, c'est du riz, des lentilles corail cuisinées avec de la sauce tomate, du lait de coco, des oignons et plein d'épices en fait. On fait pas mal de plats de pâtes avec des sauces à base de légumes. On fait de la soupe, pas mal de soupe. Et en fait, tu peux faire des choses qui sont jamais exactement les mêmes.
Est-ce que votre restaurant s'occupe des alimentations durables, bonnes pour la planète et pour les habitants ?
On fait attention à d'où proviennent les fruits et les légumes qu'on emploie. Moi, j'utilise beaucoup de pommes et de poires parce qu'en fait, elles viennent pas de très loin et puis parce que c'est vraiment la période. Donc oui, la provenance, on fait attention.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce travail ?
Alors moi, j'aime travailler ici parce que c'est un endroit très riche humainement. Les postes que j'ai eus avant, j'étais pas en contact avec les gens. Parce que souvent, dans les restaurants, la cuisine, elle est complètement coupée de la salle. Et puis, il y avait des serveurs. Et en fait, je voyais pas les gens. J'avais pas de retour sur ce qu'ils mangeaient. Et là, ce qui est chouette, c'est que en fait, c'est presque tous les jours les mêmes personnes qui viennent. Donc on les connaît. Et il y a un vrai lien qui se crée. Et puis, on cuisine pour eux, on les sert. Après, ils nous disent « Ah, ça, j'ai bien aimé. » Ou alors, des fois, y a aussi des critiques, parce que des fois, on teste des choses. Mais on a un vrai retour. Et ça, en fait, c'est quand même c'est super satisfaisant, parce que moi, je fais à manger pour que les gens, ils aient plaisir à manger. Enfin, c'est ça, le but. Donc là, j'ai le retour. C'est ça, la motivation.
Elsa n'est pas la seule à être contente de travailler au 6B. Hugo aussi, et ça fait 5 ans qu'il jardine ici.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, j'aime beaucoup mon métier. L'avantage, c'est que je peux faire beaucoup de choses différentes et j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile aussi pour les gens, pour l'environnement. C'est même pas dur en fait d'aller travailler, c'est un plaisir. Après, c'est un petit jardin. Quand tu vois par exemple la taille de Saint-Denis et le nombre d'immeubles et minéraux qui sont construits, la pollution, ce petit jardin, c'est pas grand-chose. Mais par contre, s'il y a plein de petites initiatives comme ça qui se multiplient, là, ça peut faire un changement. Et le but, c'est que ça marche et que oui, petit à petit, ça se développe et qu'on fasse de plus en plus de jardins dans les villes.
Bah, merci à vous d'avoir pu répondre à nos questions. C'était Hugo avec nous. Merci.
Merci.
Merci à vous.
On espère que ce reportage vous aura donné envie de découvrir ce potager, de goûter les plats d'Elsa et d'apprendre à jardiner.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la classe de 4e une du collège Brian Makeba à Aubervilliers.
Dans le cadre d'une résidence Agora initiée par le département de la Seine-Saint-Denis.
Avec l'aide de nos professeurs Johanna Ngouan, Jean Desminibus et Laura L'Esprit.
Des journalistes Myriam Lai, Laure Vatrin et Sylvie Bertilly de l'association Transsonore. Et d'Anthony Capelli pour le mixage et l'habillage sonore.
Amara.
Ziad.
Dimitri.
Wood.
Kadijatou.
Benoît.
Adam.
Younes.
Dylan.
Django.
Founé.
Mariam.
Oumou.
Shaima.
Melina.
Myriam.
Mohamed.
Ronor.
Marville.
Et Malik.